Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Entre Deux Mers en direct avec Béatrice Griffoul et Isabelle Papineau.
Bonjour.
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 Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre troisième émission sur la thématique des aidants familiaux. Le groupe de travail dans le cadre du programme Aide aux aidants impulsé par la MSA s'est intéressé à la condition des aidants familiaux encore en activité. En effet, l'aidant est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou pour totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes. C'est la confiance de la personne en besoin d'aide, souvent fragile, voire vulnérable, qui fonde la légitimité de la place du proche aidant. À partir de cette définition, nous sommes interrogés sur comment les aidants en activité s'organisent-ils pour concilier vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. Quelles conséquences cette accumulation d'activités peut avoir sur la santé, sur la vie sociale, familiale et professionnelle? Quels sont les enjeux pour l'aidant, sa famille, son entreprise? Avant de vous présenter nos invités de ce jour, je vais vous livrer quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En France, ce sont environ 8 300 000 personnes de plus de 16 ans qui aident régulièrement et à titre non professionnel des personnes en situation de dépendance. 47% sont salariés, dont l'âge moyen est de 52 ans. Et 57% sont des femmes. La moitié des aidants ont une pathologie chronique et beaucoup d'entre eux, ne s'occupent pas de leur santé. Avec nous en studio, Madame Vanier, exploitante agricole, aidante de ses parents.
Bonjour.
Madame Castagnier, aide-soignante à l'hôpital, aidante de sa maman.
Bonjour.
Madame Berthaud, psychologue et animatrice de groupe de parole et de formation pour les aidants au sein de l'association France Alzheimer.
Bonjour.
Madame Vanier, pouvez-vous vous présenter ?
Donc, je suis Christine Vanier, je suis la sœur aînée, j'ai deux autres sœurs. Je suis également mariée et maman de deux jeunes adultes maintenant.
De qui êtes-vous l'aidante ?
Maintenant, je ne suis l'aidante que de ma maman. Mon papa est décédé il y a pas tout à fait un an de ça.
Et quelle est votre activité professionnelle ?
Alors, je suis exploitante viticole, donc nous avons une exploitation. Je travaille avec mon mari et nous avons également deux salariés sur l'exploitation.
Très bien. Madame Castagnier, bonjour. Vous êtes notre deuxième témoin aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis la deuxième enfant. J'ai un frère aîné. Je suis mariée, j'ai deux enfants, maintenant adultes aussi. Je suis l'aidante de ma mère depuis 9 ans. Qui habite chez moi, mais j'étais déjà très présente dans la vie de ma mère depuis le décès de mon père, étant donné qu'il y avait des relations familiales très compliquées depuis son décès.
Quelle est votre activité professionnelle ?
Je suis aide-soignante en hôpital psychiatrique, ce qui m'a permis de me rendre très vite compte des bizarreries dans le comportement de ma mère. Et le diagnostic est tombé, la maladie d'Alzheimer, il y a environ 9 ans. Même si par ma profession je m'en doutais, cela a quand même été un choc, il fallait accepter. Et je savais très bien, déjà soignante de patients ayant cette maladie, vers quoi on se dirigeait pour la prise en charge.
Madame Vanier, comment êtes-vous devenue aidante ?
Eh bien, pas du jour au lendemain. On commence simplement à aider nos parents parce que le quotidien est un peu plus difficile pour eux. Donc on ne se pose pas de questions, nous sommes là et nous aidons du mieux que l'on peut.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu une journée type ? Quelles sont vos tâches ?
Avant que tout le service d'aide sociale se mette en place, j'étais principalement le matin, pratiquement toute la matinée, à faire le repas, le ménage, éventuellement les aider au lever, le petit déjeuner, le repassage, enfin bien d'autres choses. Et je me permettais de m'absenter quelque temps pour pouvoir faire la même chose à mon domicile. Avec en plus tout le travail de bureau et la gestion d'une entreprise.
D'accord. Du coup, vous aviez mis un peu votre activité professionnelle entre parenthèses.
Oui, oui. Et c'était une obligation parce que très vite, je me suis aperçue que je ne pouvais pas tout faire. D'accord. Donc, il a fallu justement que j'embauche une personne à mi-temps pour réaliser mon travail sur l'exploitation viticole.
Et à quel moment votre rôle d'aidant a été vraiment très régulier ?
Quand ma mère a été hospitalisée au mois de mai 2014 pour une fracture du col du fémur, là, on s'est aperçu que mon père, qui avait la maladie d'Alzheimer, on a été obligé de prendre les mesures nécessaires pour s'occuper et pour gérer leur quotidien et le nôtre par la même occasion.
Madame Castagnier, comment êtes-vous devenue aidante, vous aussi ?
Je savais que le rôle que j'allais avoir et que plus la maladie évoluerait, plus il y aurait des prises en charge que de toute manière j'allais faire venir à la maison. Je me ferais donc aider par des intervenants extérieurs, mais qu'il fallait aussi stimuler et maintenir tous les acquis. Et en plus, il fallait que je gère la famille et expliquer à mon mari et mes enfants qui étaient très jeunes, puisqu'ils avaient 10 et 13 ans, ce qui allait se passer.
Et à quel moment votre rôle d'aidant a été régulier ? Est-ce qu'il y a un moment précis, un acte, un événement ?
Non, ça s'est fait vraiment peu à peu dès le départ. J'ai simplement pris peu à peu les aides-soignantes qui ont pris les soins en charge, les soins d'hygiène du matin en 2013. Et en même temps, grâce aux spécialistes, ma mère a pu bénéficier d'une prise en charge en hôpital de jour à la Réole une fois par semaine, sur 8 semaines avec psychomotricien et ergothérapeute pour aider à garder des acquis, tant que sa maladie correspondait au niveau du groupe pour la prise en charge. Ça s'est arrêté environ il y a 4 ans. Cette année, j'ai pris des aides ménagères en plus pour la préparation de son repas et vérifier qu'elle mange et qu'il y ait des aides 2 heures dans la journée quand je suis le matin, depuis sa chute qu'elle a fait en septembre. Comme elle vit sous notre toit, mon mari est aussi aidant et surtout mes enfants qui nous aident. Et toutes les années qui sont passées, c'est vrai que ça l'a énormément stimulée. Il y avait toujours des va-et-vient entre les enfants, mon mari, moi, mes horaires décalés. Donc, du coup, elle a énormément gardé d'acquis des automatismes.
Vous pouvez nous expliquer une journée pour vous, une journée type, avec évidemment les tâches que vous pouvez faire pour votre maman en plus de votre activité professionnelle ?
Déjà, si je ne travaille pas le matin, quand je suis d'après-midi le matin, c'est préparer son petit déjeuner, la faire déjeuner, préparer ses affaires. Quand je suis de matin, c'est l'aide ménagère qui prend en charge à partir de 11h30, qui vient lui préparer son repas, la faire manger. Elle repart vers 13h30 et souvent c'est mon fils qui arrive l'après-midi qui prend le relais. Et après moi le soir, c'est tout ce qui est soins d'hygiène, déshabillage, préparation au lit, etc. Je prépare les médicaments, je fais tout. Plus mon travail après à côté, le travail de la maison.
Madame Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue. Pourquoi les aidants tiennent-ils à temps préserver leur activité professionnelle ?
Donc tout d'abord, dans la grande majorité des cas, les aidants tiennent à continuer à travailler pour des raisons financières, puisque actuellement, selon l'âge à laquelle le diagnostic est posé, il y a peu, voire pas du tout, d'aide financière pour compenser la perte de salaire. Parce qu'on est l'aidant principal d'une personne en perte d'autonomie. Ensuite, il peut y avoir des raisons psychosociologiques. Donc, en comparaison à ce que vit l'aidant dans les différents rôles qu'il doit assumer dans sa vie privée, comme on l'a vu en tant que mère, femme au foyer, l'aidant peut percevoir son travail comme un espace qui lui est propre, c'est un espace préservé, qui peut représenter une véritable bulle d'oxygène. C'est son espace à lui. À cette place, donc, la personne sort de son rôle, qui peut être lourd et contraignant, comme on l'a vu. Le travail, ça peut être perçu comme un espace de liberté, source de plaisir, de satisfaction, d'accomplissement personnel. Il permet aussi, et c'est important, de maintenir les liens sociaux, de rencontrer d'autres personnes et de lutter donc contre l'isolement que beaucoup d'aidants ressentent. Avoir une activité donc professionnelle peut donner le sentiment aux aidants de rester intégrés à la société, alors que de l'autre, ils ont de moins en moins de temps à consacrer pour eux-mêmes, aux relations sociales, amicales, à leurs loisirs, voilà.
Ouais, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve un peu après.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
sur Radio Entre Deux Mers pour l'émission sur les aidants familiaux. Nous nous retrouvons avec nos invités. Nous le constatons, la majorité des aidants tiennent à maintenir une activité professionnelle. Pourtant, ceci n'est pas sans répercussion sur leur état de santé. D'ailleurs, parmi les aidants ressentant une charge lourde, 9 sur 10 se disent fatigués. 8 sur 10 éprouvent une fatigue physique. 56% d'entre eux déclarent que le fait d'aider affecte leur santé et 18% déclarent avoir renoncé à des soins au cours de ces 12 derniers mois.
Madame Vanier, donc, qui est exploitante agricole et qui aidait au quotidien votre maman, avez-vous constaté des répercussions sur votre état de santé ?
Forcément, il y en a eu quelques-unes, à commencer par les troubles du sommeil. puisque vu faire face à toutes ces difficultés, on a beaucoup plus de tracas et nos pensées sont occupées. Et le soir, malheureusement, on ne peut pas laisser tout ça au bord de notre lit et ça continue à mouliner toute la nuit.
Voilà. Et vous est-il arrivé du coup de renoncer à des soins ?
J'ai peut-être pas renoncé, mais reporté des soins en mettant en priorité les soins qui concernaient mes parents. Oui. Donc forcément, après, on est obligé quand même de se soigner ou d'aller nous-mêmes à nos rendez-vous. Parce que si l'on veut continuer à pouvoir bien s'occuper de nos parents, il faut que l'on y passe nous aussi.
Madame Castagnier, donc vous êtes aide-soignante donc, sur un hôpital. Vous avez votre maman chez vous. Avez-vous constaté, vous, des répercussions sur votre santé ?
Beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Bon, un gros manque de sommeil parce que ces troubles sont souvent la nuit. Et du coup, je dors que d'une oreille puisque dès que j'entends, je me lève, je vais voir ce qu'elle fait, où elle est, ce qu'elle invente. Et en plus, comme je bouge beaucoup mes roulements pour pouvoir être là un maximum à la maison... oui, ça décale, je suis d'après-midi, je suis le matin, j'ai peu de repos, je reviens, enfin c'est très difficile. Et en plus j'avais deux générations à la maison, hein. J'ai ma mère et j'avais les enfants, donc avec tout ce qui était devoir aussi s'occuper de la famille. Quoi. Il y a la famille, il y a l'aider, mais il y a toute la famille derrière nous. Quoi. Il faut aussi être présente.
Et avez-vous renoncé à des soins, vous ?
Non.
Non ?
Non.
J'avais réussi.
Après la maladie, j'avais 38 ans, je pense que j'étais encore en pleine santé. Et j'ai toujours réussi à gérer, c'est mon mari qui gérait la maison, si moi j'avais des soins à faire.
Madame Berthaud, vous êtes psychologue. Pourquoi les aidants arrivent-ils à oublier les alertes que leur signale leur corps ?
Eh bien, comme on vient de l'entendre, les aidants manquent de temps. Ils sont peu à l'écoute d'eux-mêmes, toute leur attention, leur énergie sont principalement focalisées sur leur malade et les tâches qu'ils doivent accomplir au quotidien. Ensuite, ce que j'entends beaucoup dans les groupes de parole que j'anime ou les formations des aidants, il y a une sorte de méconnaissance des signes de leur corps et ou une négligence de leur état. Il faut savoir que, comme on l'a entendu, le rôle et la place de l'aidant, il évolue progressivement. Les personnes consacrent de plus en plus de temps à leurs proches. Ils effectuent de plus en plus de tâches. Par conséquent, ils ont donc de moins en moins de temps pour s'occuper d'eux. Et ils ont donc constamment tendance à repousser leurs limites et à négliger, minimiser ou banaliser tous ces petits signes d'alerte. Voilà. Ce qui d'ailleurs fait qu'on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'un aidant essaye d'en faire toujours plus. Beaucoup d'aidants donc aussi ont du mal à demander de l'aide et à déléguer. Il y a aussi le fait que pour beaucoup, ils ont du mal à s'autoriser à dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils souffrent donc physiquement et psychologiquement. Pourquoi cela ? Parce que beaucoup culpabilisent d'être mal. Et aussi, ils ont peur qu'en avouant leurs difficultés, finalement, ils s'effondrent et ils craquent.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences sur la santé de l'aidant ?
Eh bien, on l'a vu aussi, hein, Madame Vanier en a parlé, ainsi que Madame Castagnier. Il y a principalement des troubles, une fatigue physique et morale, pardon, du stress, des troubles du sommeil. Il peut y avoir aussi divers troubles somatiques, comme des maux de tête, des troubles digestifs, des douleurs, des éruptions cutanées. Sur le plan psychique, les aidants peuvent développer une dépression, des troubles anxieux. Pardon. Ils se sentent irritables, colériques, peuvent être tendus, agressifs. Ils ont souvent le sentiment d'être tiraillés, dépassés par la situation. Ils ont tout simplement peur de ne pas y arriver. Ils ont aussi beaucoup tendance à se dévaloriser et à développer un sentiment d'échec. Et dans une plus grande mesure, la santé de l'aidant peut vraiment se dégrader, pouvant aller jusqu'à l'apparition de troubles somatiques importants, comme des maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, les conséquences peuvent être importantes pour un aidant, à cause de son rôle.
Madame Vanier, avez-vous, vous retrouvez-vous dans cette description ?
Pas la totalité, mais certains signes, oui. L'irritabilité en fait partie, parce qu'on a beau essayer de garder notre calme, essayer même de rire de certaines situations. Par moment, ça peut...
la cocotte explose.
Oui, voilà, voilà. Et puis, après, de suite, on s'en veut. On s'en veut d'avoir dit peut-être des paroles qu'on ne pense pas, mais c'est sorti. Alors, pour un malade d'Alzheimer, 5 minutes après, tout est oublié, mais nous, non. Et à force, on accumule, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se sent un peu coupable. Des fois, on a des attitudes assez étonnantes. On ne se rend pas compte de ce que l'on peut faire. Et puis, on essaye de tout rattraper par une pirouette et puis de faire avancer.
Mais c'est reparti.
Ouais. Voilà.
Ce que j'ai oublié de préciser, effectivement, c'est ce côté, ce qui est difficile pour un aidant quand il est dans la situation, comme on dit, il a la tête dans le guidon, c'est de pouvoir prendre du recul sur sa situation, de pouvoir prendre conscience de son état.
Oui, c'est ça.
C'est assez difficile, oui.
Oui. Moi, j'ai la chance, parce que je n'ai pas trop parlé, mais j'ai un mari. Et heureusement que mon mari, par certains côtés, était là pour mettre un petit peu l'eau là et de voir peut-être de m'aider, de me seconder et de me laisser un peu de recul pour pouvoir
vous aider à prendre le recul.
Voilà. Mmh. Et heureusement que, et ça, merci à lui, heureusement qu'il était là pour pouvoir m'aider dans certaines situations.
Madame Castagnier, vous, c'est la même chose. Vous avez comme ça des répercussions. Vous vous retrouvez dans cette description. Vous avez aussi de l'aide de votre mari pour prendre du recul. Vous avez votre travail. Comment ?
J'ai plus mon travail pour trouver de l'aide parce que c'est aussi ma profession et je sais que j'ai plus d'écoute et ils comprennent peut-être plus. Après, j'ai de l'aide à la maison par mon mari. Mais c'est vrai que je suis toujours la tête dans le guidon et j'ai énormément de mal à prendre du recul. Et comme disait Mme Vanier, il y a des moments où on a envie de rire, on a envie de pleurer, on a envie de colère, on a envie d'exploser totalement et on dit on ne peut pas. Et si on le fait, on le regrette parce que on a dit des choses qu'il ne fallait pas. Mais oui, la cocotte, elle a pété et il fallait le dire. Et on l'a dit.
Je crois qu'on peut s'autoriser à le dire, Madame Berthaud.
Il faut. Voilà. Il faut s'autoriser. C'est la première démarche. Reconnaître que ça ne va pas. Et là, après...
Du coup, on reconnaît avec qui on peut discuter. C'est avec son entourage, mais ce n'est pas toujours facile. Est-ce que c'est le médecin ? Est-ce que c'est des groupes de parole ?
C'est un peu tout ça. Ouais. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. C'est vrai que les professionnels... les professionnels de santé extérieure sont peut-être les plus à même parce qu'aussi souvent les gens entendent plus de choses quand c'est un regard extérieur que quand c'est leur propre famille. Vous parlez des groupes de parole, effectivement ça fait partie des bénéfices de ces groupes où effectivement les gens se retrouvent entre eux, puisque ce sont des groupes d'aidants qui vivent la même chose. Et du coup, à travers l'échange, tout doucement, on peut prendre du recul. Les formations aussi, elles permettent de mettre des mots, de donner des repères, de se questionner sur justement où j'en suis et pourquoi je suis comme ça, effectivement.
Pourquoi il est important que l'aidant prenne soin de lui ?
C'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les études ont montré que être un aidant en moyenne pour c'est 5 à 6 heures de travail supplémentaire par jour, 5 à 6 heures de temps consacré à son aidant. Personne ne peut assumer un tel rôle quotidiennement et sur du long terme. Parce qu'une maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est entre 8 et 12 ans, à partir du moment où le diagnostic est posé. Donc on sait aussi aujourd'hui qu'un aidant qui ne prend pas soin de lui, il va donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, voir sa santé se dégrader. On a listé tout un tas de signes, mais dans une mesure plus poussée, plus extrême, il peut y avoir un épuisement important, comme un craquage de l'aidant. On a parlé des maladies qui se déclarent, des maladies chroniques. Il y a des études qui ont montré que, ben, vous l'avez dit au début aussi, hein, la moitié des aidants présentent une maladie. Et ça peut aller aussi jusqu'au décès. Alors là, pareil, hein, les chiffres donnent à peu près 30% des aidants qui meurent avant leur malade. Ouais. Donc effectivement, déjà rien que pour ces raisons, c'est important que l'aidant prenne soin de lui. Donc il y a une question d'aider dans la durée. Plus l'aidant va prendre soin de lui, plus il pourra continuer à aider son proche longtemps. Mais il y a aussi un impact sur la qualité de la relation. C'est-à-dire qu'un aidant qui prend soin de lui, c'est un aidant qui est moins stressé, qui est moins inquiet, et donc qui sera plus à même à faire face au quotidien, aux troubles du comportement, aux tâches qu'il doit effectuer. Il se sentira moins dépassé, plus à même de jouer son rôle correctement. Et ça, il faut savoir qu'en retour, un malade du moins, le ressent. Pour un malade d'Alzheimer, encore une fois, ils sont très sensibles à l'émotion de leurs proches, à la manière dont ils vont être touchés, la manière dont on leur parle, tout ça, ça transparaît
c'est exact.
Dans nos, c'est... Ouais. Notre attitude ouais, d'aidant.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Oui, c'était ma question, pardon, j'avais pour ces deux témoins. Est-ce que... À partir du moment où vous avez mis les aides en place et que vous avez été un petit peu soulagé, est-ce que vous avez trouvé un changement dans la relation avec vos parents ?
Oui. Notre relation a été modifiée parce qu'on commençait à retrouver notre place d'enfant. Voilà. On n'était plus le parent. Et donc, on pouvait avoir des relations, papa, maman... Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec Madame... Berthaud, parce que si vous êtes stressé, la personne qui est malade le ressent tout à fait. Et c'est pas bon pour elle aussi, parce que ça ajoute, mine de rien, on sait qu'ils sont déconnectés parfois, mais on sent qu'ils sont pas bien eux aussi. C'est pas parce qu'ils ne sont plus là qu'ils ont des absences qu'il faut ignorer justement ce souci. Ça reste quand même un être humain, donc voilà.
Le malade réagit à son environnement de toute manière.
Ah oui.
Et il ressent tout ce qu'il y a autour de lui, que ça soit dans la maison, l'extérieur, même s'il y a plein de choses qu'il ne voit pas, qu'il ne ressent pas, il y a des choses qu'il ressent. Et c'est vrai ça. Que ça, c'est la première chose qu'il sent.
C'est vrai.
Oui, on sait que dans la maladie d'Alzheimer, plus un aidant va bien, moins la personne a des troubles du comportement, des troubles de l'humeur. Donc c'est aussi une qualité de vie au quotidien qui s'en ressent.
Et je pense que je veux préciser aussi que la personne du départ, le malade du départ, si c'est déjà quelqu'un qui est plus posé, il y aura aussi moins d'agressivité. Un malade qui est quelqu'un de tonique va être... peut-être plus dans l'agressivité, même avec les dents, malheureusement. Et c'est souvent là qu'on a du mal aussi à faire une prise en charge correcte. Mais si le patient était calme, et s'il est calme, il y aura moins d'agressivité. Et ça aide aussi les dents à pouvoir prendre en charge correctement son parent.
Nous faisons une deuxième pause de musicale, si vous le voulez bien.
Thank you.
Donc vous êtes bien sur Radio Entre Deux Mers, nous continuons l'émission avec nos invités. Madame Berthaud, donc psychologue, donc qu'est-ce qu'un aidant peut faire pour prendre soin de soi ?
Se reposer, par exemple.
C'est très bien, mais encore ? Est-ce que l'aidant arrive à le faire, ça ?
Voilà. Pas trop.
Pas tous les jours.
C'est vrai que pour prendre soin de soi, c'est des premières... surtout se récupérer du temps pour soi. Ça passe par demander des aides à la famille, si possible, à des professionnels. On sait qu'aujourd'hui, en France, il y a plusieurs dispositifs qui permettent justement d'accueillir aussi les malades. Et cela permet justement à l'aidant, dans un même temps, de pouvoir vaguer à ses occupations pour lui ou ne rien faire aussi. À cela, je pense aux accueils de jour, aux accueils temporaires. Les associations aussi, certaines proposent des activités où ils accueillent les malades. À domicile, on peut mettre aussi en place des aides, hein, des professionnels qui viennent comme des auxiliaires de vie. Après, il y a infirmiers, aides-soignants pour tout ce qui est aide à la toilette. Je crois que...
C'est ce que nous faisons.
Ouais, oui, nous, pareil. C'est ce que vous avez mis en place toutes les deux.
Oui. Après, ce qui est important, je pense, dans le prendre soin de soi, c'est aussi la notion de plaisir. Hein. C'est savoir de nouveau penser à soi, faire des activités plaisir, comme aller faire du vélo, ne pas oublier de prendre sa pompe à vélo, se reposer, maintenir une activité, l'activité loisir que la personne faisait avant. Ne serait-ce que même lire, aller voir les amis, continuer à aller les voir ou les inviter. Faire des choses que l'on a envie de faire pour soi.
Ouais. Oui, les amis, c'est difficile.
Ils ne comprennent pas toujours.
Ou les amis et même certains membres de la famille.
Comprennent
parce
pas
que c'est, la maladie, ça peut faire peur.
Ouais.
Juste une dernière chose. Alors aussi, on parlait de la santé, c'est aussi prendre le temps d'aller voir son médecin traitant. Les dernières recommandations de l'HAS, je sais que c'est pas forcément beaucoup pratiqué, mais les médecins traitants peuvent, ils ont des consultations spécialisées pour les aidants.
D'accord.
Dans leurs conditions, ouais. Et je pense à une dernière chose aussi, prendre soin de soi, c'est aussi bénéficier peut-être aussi d'une formation, spécifique, parce que être l'aidant d'une personne en perte d'autonomie, c'est pas inné, ça s'apprend. On n'a pas toujours les trucs et astuces ou les idées qui viennent là. Et des fois, c'est en partageant ou en allant se former qu'on les a. Ça permet aussi de prendre connaissance de toutes les ressources sur le secteur. Et dans les groupes aussi, je voulais juste rajouter une dernière chose, dans les groupes et les formations, il y a surtout un mot qui revient pour les gens qui accompagnent depuis assez longtemps leurs proches. Ils disent finalement, ce qui est important, c'est d'anticiper. Et plus on anticipe, plus moins on a des situations de crise qui sont difficiles sur le plan émotionnel. Et donc ça passe aussi par s'informer, se former.
Voilà. Donc on a bien compris qu'il ne fallait pas rester tout seul. Quand on est aidant, il faut parler, trouver quelqu'un à qui parler.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que bon, moi, la formation, je l'ai eue avant. Je ne pensais pas que je serais aidante. Hein. Et c'est vrai que pour beaucoup de choses, ça aide aussi. Parce qu'il y a plein de termes dans le médico qui ne sont pas évidents à comprendre sur les aides, sur ce qu'on peut avoir, etc. Et c'est vrai qu'il faut faire ces formations, il faut savoir prendre en charge, se ménager le dos quand il tombe. Enfin, c'est tellement de choses que nous, on voit avec des années, parce qu'on y a travaillé, qu'on a eu des pertes déjà physiquement. Et c'est vrai que ça peut aider les aidants, et il faut qu'ils le fassent. Ça va les aider.
Donc on a bien vu, en dehors des problèmes de santé, les aidants vont devoir faire face à d'autres difficultés d'ordre familial et social. Et environ 40% des aidants disent manquer de temps. Madame Vanier, avez-vous été secondée, vous, dans votre rôle d'aidant, et par qui ?
Alors, comme j'ai deux sœurs, mais le souci, c'est que j'en ai une qui réside sur la région toulousaine, et la seconde qui est sur la Polynésie française. Donc, c'est un peu compliqué. Il n'y a que par le système du téléphone. Bon, pour celle de Toulouse, malheureusement, elle aussi, elle a des soucis de santé. Mais bon, elle essaye d'être présente le plus possible. Donc, quand elle est là, je peux m'autoriser, ne serait-ce qu'à oublier mon téléphone.
Vous y arrivez maintenant.
Je m'autorise à laisser tomber mon téléphone. Je ne suis plus là parce que j'ai cette sécurité. Je sais que ma sœur est là et s'il y avait quoi que ce soit, elle pouvait gérer au plus vite. Et ne plus avoir le téléphone, ne plus dormir avec un téléphone, c'est vraiment très appréciable.
Moins de stress.
Oui.
Et au quotidien, vous avez votre mari qui est là présent aussi,
voilà,
qui peut répondre jour et nuit s'il y avait besoin aussi.
C'est ça. Je tenais juste à ajouter sur la téléassistance, présence verte pour ne pas le nommer. C'est bien et ça peut l'être un peu moins parce que malheureusement, comme on disait, les angoisses, dès qu'il arrivait quelque chose, c'était la nuit. Donc, appuyer sur un bouton, ça peut être facile, mais le temps que tout s'enclenche et puis que vous-même soyez réveillé à 3 heures du matin pour voir si tout se passe bien et qu'est-ce qu'il y a comme problème, ça, on perd énormément de temps. Et c'est bien, mais la personne qui a Alzheimer ne sait plus du tout à quoi ça correspond et peut appuyer pour un oui, pour un non.
Oui, ça a ses limites.
Voilà, ça a ses limites.
Bien sûr, ça a ses limites. Madame Castagnier, vous avez de l'aide, vous aussi, je crois.
J'ai une amie, qui est très très proche de moi, qui est une ancienne aide-soignante maintenant à la retraite et qui, du coup, depuis des années, quand je veux partir en vacances ou quand je veux déjourner, vient à la maison carrément. Et ça m'a toujours permis de pouvoir partir au moins 15 jours avec mes enfants en vacances et même maintenant de partir 15 jours et de poser le téléphone et mettre la tête ailleurs. Et 15 jours de sommeil aussi, c'est génial. De ne pas se dire on peut dormir que d'une oreille. Même si cette année, ça a été autre chose, mais c'est... Et en plus, ma mère investit cette personne puisqu'elle la connaît, c'est son visage, elle la repère bien. Et ça aussi, ça aide énormément.
Avez-vous dû modifier votre mode de vie, des sorties
Ah oui, on sort très très peu, on voit très très peu de monde, les gens ne comprennent pas de toute manière, je crois qu'il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Et on s'est un peu isolé, petit peu, oui.
D'accord, Madame Vanier aussi.
Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a la peur de la contagion. C'est ridicule, mais c'est un fait.
Puis je crois que c'est se mettre faire l'autruche et si on ne le vit pas, ça ne nous arrivera pas.
Oui,
si on ne le voit pas, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi.
Voilà.
Madame Berthaud, pouvez-vous nous dire comment les proches voient le rapport particulier qui se crée entre l'aidant et l'aidé ?
Donc, comme l'a dit Madame Castagnier, souvent les proches ne comprennent pas réellement ce qu'est la maladie et ses implications en termes de perte d'autonomie et de besoin pour le malade. Beaucoup d'aidants se sentent incompris et pensent qu'ils ne peuvent pas l'être, comme vous l'avez dit, et beaucoup le pensent. Enfin, en tout cas, j'entends souvent, il faut le vivre pour le comprendre. Donc, on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est et jusqu'où ça peut aller. Ensuite, ce qui a été dit aussi, c'est que la maladie ou le handicap, elle nous touche tous personnellement, intimement. C'est aussi une question pour soi. À quoi ça me renvoie ? Vous parlez de contagion, oui, moi je parlerai de projection, c'est aussi ce que je peux devenir et que je ne veux pas être.
Et on entend souvent Alzheimer hérédité aussi.
Oui.
On commence à l'entendre.
Donc par rapport à tout ce qui est relationnel, la maladie vient aussi questionner l'histoire familiale. Elle a un impact sur l'individu, l'aidant, mais aussi toute la famille. Et les liens que chaque personne a avec cette personne malade ou l'aidant. La maladie donc modifie aussi, on l'a vu, les rôles et la place de chacun. On parle souvent de permutation des rôles, l'enfant qui devient le parent et le parent qui devient l'enfant. Il y a une espèce de déséquilibre dans les relations qui donne le sentiment de vivre une crise à chaque fois relationnelle. Et donc la difficulté de retrouver justement un équilibre et que chacun se trouve bien à sa place. Dans les cas de maladie ou de handicap, il n'est pas rare que de vieux conflits familiaux ou relationnels ressurgissent ou que les tensions s'exacerbent. Souvent, l'aidant n'a pas choisi de l'être, il est un petit peu propulsé malgré lui. Et ce rôle, cette place qu'il tient peut être très bien vécu par certains membres de la famille, d'une manière, ou alors cela peut aussi susciter certaines tensions. Je pense notamment à des aidants que j'ai rencontrés, des enfants de parents malades qui disaient « bon, ben moi je suis l'aidante de ma mère, mais par rapport à mes deux autres sœurs, moi elle ne m'a jamais aimée ». Mes deux autres sœurs sont loin, elles ne s'occupent pas de moi. Donc c'est très très difficile à vivre. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire mère-fille qui vient se rejouer, qui peut être compliqué. En ce qui concerne les conjoints des aidants et des enfants, s'il y en a, ils sont souvent très compréhensifs et très impliqués. A contrario, on peut avoir aussi une dégradation des relations, des tensions au sein des couples. Mais bon, en tout cas, de mon expérience et de ce que j'en entends souvent, les aidants, enfin les conjoints, les enfants sont très présents.
Mais parfois, notre conjoint va dire bon ben là, on fait une pause et c'est lui qui va nous amener à sortir un peu de ce vase et Ils sont là pour un petit peu mettre des alertes parce qu'ils sont complaisants, ils nous aident, mais par moments, ils nous disent stop, là, on arrête et on part une journée ou une heure histoire de prendre un peu du recul. Parce que les tensions, ça c'est vrai,
des fois.
Dans le couple, oui, il peut y en avoir quelques-unes à cause de ça, malheureusement. Mais les tensions qui peuvent exister aussi de l'enfant, enfin de l'aidant, par rapport à la personne qui est aidée. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il peut y avoir des rancœurs qui remontent comme ça, des choses qui n'ont pas été dites pendant des années. Et là, ça monte. Et puis, ça peut justement arriver jusqu'à dire des choses qui aurait dû être dite il y a des années de ça.
On règle ses comptes.
Voilà, on règle ses comptes. Mais il faut en profiter aussi pour être dans l'autre sens et dire ce que l'on ressent, parce que des fois, on n'ose pas dire à nos parents qu'on peut les aimer. Et puis, il faut oser. Et là, je trouve que c'est l'occasion pour dire un peu, avant que la personne ne l'oublie totalement, dire qu'on l'aime. Voilà.
Et donc, comment les proches peuvent-ils soutenir l'aidant ?
Alors, en continuant à être présent déjà, je crois que Mme Vanier le disait un petit peu tout à l'heure, on observe une espèce de fuite de l'entourage, enfin pas tout le monde évidemment, mais une partie, comme on dit, on fait le tri. Oui. En fait, ça fait le tri, la maladie fait le tri.
C'est la maladie qui fait le tri, oui.
Donc déjà, comment on peut aider les aidants? C'est en restant présent auprès d'eux, en étant à leur écoute, attentif à leurs besoins. En s'impliquant si l'aidant le souhaite, parce que c'est pas facile pour un aidant de demander de l'aide. Ça demande vraiment réflexion, ça prend du temps, c'est ce que vous disiez, je crois, Madame Castagnier.
Oui, c'est difficile de mettre des gens dans la maison, chez soi, que ça soit même des aides-soignantes. On sait que c'est pour le bien de la personne qui est malade, mais on rajoute du personnel, des gens viennent, ça part, ça vient. On a aussi notre vie personnelle. Ben, ils viennent à des heures quand ils peuvent venir faire les soins d'hygiène, mais nous, eh ben, on veut se mettre à table, il est déjà midi. Ou voilà. En plus, bon, ben, j'avais les enfants en bas âge. Donc on a aussi une vie perso et en même temps, on intègre le malade et on intègre les gens qui viennent l'aider. Donc c'est une grande décision à prendre et ce n'est pas toujours évident. Et des fois, on met du temps à la prendre. Et même pour le malade, c'est difficile d'avoir des gens au départ qui ne connaissent pas. Pour eux, ça les perturbe. Il faut aussi qu'ils s'habituent à ça.
Il y a la notion de confiance, en fait.
Ah oui, la confiance, ah oui.
Faut que confiance le proche, en entre. Il faut que le proche malade fasse confiance.
Et nous, faire confiance aux personnes qui
aussi,
vont venir.
C'est ça.
Que vous vous faites rentrer chez vous. Moi, j'entends beaucoup des gens qui me disent... demander des aides, ça aide, évidemment. C'est quand même bien. Mais, à contrario, je ne suis plus chez moi.
Ben oui, on est beaucoup moins chez soi. Toujours pareil, j'ai travaillé, j'ai fait du soin à domicile, donc je sais ce que c'est rentrer chez les gens. Mais même moi, au départ, je vivais mal. Et j'ai mis du temps à mettre quelqu'un à la maison. Et j'ai voulu tout gérer. C'est pas une solution non plus, on n'y arrive pas.
Oui, parce que beaucoup d'aidants pensent que, si je me trompe, que il n'y a que eux qui font bien, quoi, quelque part.
Ouais, peut-être ça.
Les autres
font
pas.
Puis se dire, on n'est pas capable de le faire, c'est quand même dingue de ne pas être capable de le faire. Je crois que moi, il y avait ça aussi, me dire, mais je suis capable de le faire, je le ferai. Mm. Puis à un moment donné, mais non, on ne peut pas, on ne peut plus. On n'est pas capable, on se fatigue, on est épuisé et on devient désagréable avec tout le monde. Donc il faut trouver quelque chose.
Une troisième pause de publicité, merci. De musique. Merci.
À sa façon de nous appeler ses gosses, voyez bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous. Laurette, c'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui me plaisaient beaucoup. Si par hasard, on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait, et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette, on y retournera pour ne pas l'oublier. Laurette, ce sera bien, ce sera chouette, et l'on reparlera des histoires chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette. Et l'on parlera des histoires du passé chez Lorette.
Donc nous allons terminer notre émission par des questions sur l'organisation du travail. Madame Vanny, en tant qu'exploitante agricole, comment avez-vous organisé votre activité professionnelle depuis que vous êtes aidante ?
Comme j'en avais parlé un peu au départ, nous avons été obligés de prendre une personne à mi-temps, le temps que l'on puisse s'organiser vis-à-vis de mes parents. Cette personne-là m'a remplacée pendant quelques mois sur l'exploitation, tout ce qui concerne le travail du vignoble en l'occurrence. Et ça m'a permis au moins d'être présente et d'attendre et de mettre tout en place, tout le dispositif d'aide qui est maintenant en permanence au domicile de ma mère.
Et ça vous a permis de... Maintenant, vous avez une activité normale, si on peut parler comme ça ? Ou un petit peu moins quand même ?
Alors, j'ai repris un petit peu mon travail, mais je reste quand même l'aidante de ma mère, qui malheureusement a également des soucis de santé. Donc, je continue, toujours.
D'accord. Et vous, Madame Castagné, donc aide-soignante à l'hôpital, comment avez-vous organisé votre activité professionnelle ? Est-ce qu'il y a eu des changements ?
Les premières années, non, pas du tout, puisque j'ai des horaires décalés matin. À ce moment-là, en plus, je faisais des nuits matin, après-midi, nuit, plus les enfants, donc voilà. Et depuis que les troubles s'agrandissent, j'ai vu avec ma cadre, mes collègues, qui sont vraiment présents pour moi. Je bouge beaucoup mes repos, mes horaires, pour pouvoir, et eux aussi, pour que moi, je travaille plus le week-end et moins la semaine. Et du coup, mon mari et les enfants prennent le relais le week-end et moi, j'ai mes repos la semaine. Et après, avec les aides de la maison que je peux avoir.
Vos collègues de travail sont-ils au courant ? Y a-t-il eu des échanges ? Est-ce que, voilà.
Ils sont au courant. Ils savent ce qui se passe. Je leur parle beaucoup. C'est exutoire. En plus, ils comprennent, ils comprennent tout ce que je peux leur dire, tout ce que je vis. Ils savent ce que c'est. On a tous été soignants, même si dans le service que je suis actuellement, ce n'est pas ce genre de pathologie qu'on suit. Mais on a tous été à un moment donné ou en gérontopsie avec des malades d'Alzheimer ou en EHPAD ou même dans des services spécialisés. Donc c'est vrai que c'est exutoire et on peut parler de choses. Ils sont vraiment au courant, ils sont vraiment présents.
Donc le 28 décembre dernier a été votée la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qui a créé le statut de proche aidant. Donc c'est non rémunéré, le salarié doit avoir 2 ans d'ancienneté pour le demander. Ce congé est de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder 1 an sur toute la carrière du salarié. Par contre, le congé peut être transformé en temps partiel et ou fractionné. Ce congé permet d'aider un proche n'appartenant pas forcément au cercle familial, et le fait que le proche aidé soit placé dans un établissement ou chez un tiers n'est plus un obstacle à la prise en charge. Donc ça, c'est un tout petit morceau de la loi, mais ça a créé le statut de proche aidant. Elle n'est pas encore tout à fait adoptée, puisqu'il n'y a pas eu de décret pour cette loi. Mais qu'en pensez-vous, Madame Vanier, globalement, de ce projet ? On a entendu déjà des petites choses dessus.
Alors moi, en tant que non-salariée, personnellement, je ne vois rien. Le seul point où on demande, enfin ça fait quand même quelques années, où toutes les personnes, que l'on soit agriculteur, viticulteur, artisan, commerçant, ce que l'on aimerait, c'est que ça soit reconnu sur nos cotisations retraite. Et à ce jour, rien.
Pour vous, il n'y a aucune avancée.
Silence radio. Mmh. Nous, on est non salariés, donc il faut qu'on arrive à jongler, à continuer à gagner notre vie, hein, parce qu'il n'y aura personne pour nous donner quoi que ce soit. Donc on ne travaille pas, on n'est pas rémunéré.
Donc pour vous, ça ne change pas grand-chose pour l'instant.
Malheureusement.
En tout cas. D'accord. Madame Castagné, vous, qu'en
pensez-vous ? Alors pour nous qui sommes salariés, c'est autre chose. C'est vrai que ça peut nous permettre de prendre des jours, des congés et pouvoir être là. Mais étant donné que ce n'est pas rémunéré, si on a des responsabilités financières, par rapport à souvent la maladie, ce qu'on disait, Mme Berthaud disait, des fois c'est des personnes atteintes qui sont jeunes, on a des responsabilités financières avec les enfants, avec des maisons, avec des crédits, et on peut pas, les gens pourront peut-être pas se permettre de prendre ce congé. Mais c'est déjà une avancée pour nous.
Donc, on va essayer de conclure maintenant. Ces témoignages font ressortir la complexité de la relation qui s'installe entre aidant et aidé, mais surtout des répercussions inévitables sur la santé de l'aidant, sa vie familiale et professionnelle. Il est important de garder la possibilité de prendre du temps pour soi. Et en tant qu'aidant, il ne faut pas hésiter donc, à demander de l'aide à un autre membre de la famille ou à un proche pour être secondé ou même remplacé. Donc sachez que si vous ne parlez pas de vos difficultés, ben, votre environnement ne pourra pas prendre la mesure de tout cela.
Donc on a bien vu aussi qu'il était très important de faire appel à des intervenants extérieurs. Ils sont là pour ça, ils peuvent vous apporter des solutions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé.
Acquérir du matériel spécifique pour faciliter les interventions, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Certains de ces matériels ne coûtent pas très cher, ils peuvent aussi vous soulager dans les actes de la vie quotidienne.
Donc à conserver une activité de loisir, hein, vélo ou pas, mais je crois qu'il faut faire quelque chose. Participer à des groupes de parole, s'informer et se former au maximum, puisqu'on a vu que si effectivement on avait connaissance, on pouvait anticiper plus facilement. Ne pas rester seul, partager son quotidien et imaginer que celui qui n'est pas forcément concerné par la situation peut avoir aussi des idées.
Communiquer auprès de son employeur de ce que l'on vit au moment où on le vit. Tant que faire se peut. Ben c'est aussi envisager des aménagements, si aussi c'est possible, dans la mesure où il faut aussi pouvoir se renseigner auprès de la DRH, des entreprises. Ils peuvent envisager du coup des dispositions particulières. Et sachez que du coup, l'information n'arrive pas toujours jusqu'à l'intéressé. Donc prenez des informations auprès de vos entreprises.
Et ne pas hésiter à se tourner vers les associations spécialisées comme France Alzheimer ou France Parkinson ou autres. Hein. Les bénévoles de ces associations connaissent bien les problématiques liées à ces pathologies. Ils peuvent vous alerter pour éviter des états d'épuisement et vous aider à trouver des solutions.
Aussi, utiliser les solutions de l'accueil de jour, on l'a déjà dit, ou de l'accueil temporaire, qui peuvent être un répit ou une solution pour partir en vacances ou pour partir quelques jours. Quand ils sont préparés, ces séjours constituent un réel soutien. Les établissements qui les proposent sont généralement ont fait un travail sur le lien aidant-aidé. Le personnel est formé à cette problématique et les locaux sont adaptés pour accueillir en sécurité les personnes atteintes de pathologies.
Voilà, l'émission touche à sa fin. On a, j'espère, fait le tour de la problématique de l'aidant encore en activité professionnelle. Je voudrais remercier Madame Vanier, Madame Castagnier et Madame Berthaud pour leur témoignage et d'être venue aujourd'hui. Et puis on se retrouvera pour une quatrième et dernière émission au printemps. N'hésitez pas à faire... à appeler la radio pour éventuellement poser des questions ou faire passer des messages. La radio se chargera de nous les transmettre et on vous répondra. Je vous redonne le numéro de la radio, 05 56 61 10 85. Et merci à Radio Entre-deux-Mers de nous avoir accueillis sur 98.4. À bientôt. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.